Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse.
La revue de presse d'Europe 1, signée Natacha Polony. Bonjour Natacha.
Bonjour Thomas, bonjour Julie.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on fait les soldes. 20 minutes, des soldes au rabais. Métro News, soldes, démarquez-vous. La Voix du Nord, les soldes font de la résistance. D'ailleurs, on solde tout ce matin. L'Opinion, la France à la traîne. Le Parisien aujourd'hui en France, SOS, libraire de quartier. On solde même le cinéma, les Échos, le rapport choc qui fait trembler le cinéma français. On solde aussi les rêves de changement. Le Figaro, le tournant de Hollande divise la gauche. On ne sait pas si ce matin il y aura des arrêts de travail pour cause de soldes. Selon la Croix, les abus viennent des conditions de travail et le surcoût des congés et du surcoût des congés longue maladie. Et le surcoût, pardon, vient des congés longue maladie. Ça y est, je me mélange. Donc la Croix, l'absentéisme au travail coûte de plus en plus cher.
Décidément, il aura réussi à faire parler avec ses vœux François Hollande. Alors tournant ou pas tournant ?
Ah ben alors, c'est à se demander si finalement tout le monde ne va pas perdre le nord avec cette histoire. Le Figaro évoque les ministres dans le brouillard, la majorité gênée aux entournures. Piège médiatique, commente un ténor du PS. En saluant un tournant, dit-il, et en le comparant à 1983, la presse enfonce un coin entre Hollande et son électorat. Mais à la fois, c'est compliqué de dire que ce n'est pas un tournant. Ça banaliserait des vœux qui sont les premiers qui impriment. Et oui, ils sont mal à l'aise. Seul point positif, l'UMP est tout autant dans la panade. Dans Le Monde, Alexandre Lemarié pointe l'embarras d'une droite privée de son argument majeur. La gauche dépensière qui augmente les dépenses. Preuve du désarroi, le silence assourdissant après les vœux présidentiels. Pas de commentaires acerbes, d'appel à réagir, rien. Dans Les Échos, Cécile Cornudet souligne l'art hollandien de désarmer l'adversaire en trois actes, dit-elle. La main tendue au MEDEF, les ordonnances et l'affaire Dieudonné. Pour les deux premiers, impossible pour l'UMP de critiquer ce qu'il a lui-même prôné. Et pour le troisième, une obligation de condamner les propos de l'humoriste, même pour ceux qui voient dans la stratégie de Manuel Valls une manœuvre pour faire monter le Front National. Car c'est l'invité surprise. Et pour Guillaume Tabar dans Le Figaro, ce n'est pas sur l'affaire Dieudonné qu'il faut l'attendre, mais bien sur le tournant social-libéral. Le recentrage du chef de l'État, écrit-il, n'est pas qu'une occasion de valider le discours FN sur la proximité entre UMP et PS. Il est aussi un moyen idéal pour attirer à lui des électeurs de gauche, en particulier dans les catégories les plus populaires. Pour Guillaume Tabar, François Hollande, en centrant son discours de vœux sur la défense de l'Europe contre, souvenez-vous, ceux qui veulent retourner dans les vieilles frontières, se serait volontairement choisi le FN comme adversaire pour 2017. La politique du pire est une vieille tactique, mais elle échappe très souvent à ses promoteurs.
Vous évoquez la réponse de l'UMP au vote de François Hollande. Caroline Roux nous disait tout à l'heure dans l'info politique à 7h25 que ce sera pour aujourd'hui Jean-François Copé qui va présenter ses vœux et qui, semble-t-il, va sortir le bazooka. Les riches, ça va bien, ça va toujours de mieux en mieux pour les riches.
Pourquoi les riches ont gagné ? Eh bien ça, c'est le titre d'un livre signé non pas Jean-Luc Mélenchon, comme on pourrait s'y attendre, mais Jean-Louis Servan-Schreiber. Et dans Le Figaro, il s'explique. Tout dans l'époque actuelle, dit-il, le prouve, les riches sont en position de pouvoir et n'ont plus d'adversaires. Une interview qui est une critique radicale de la financiarisation de l'économie, du discours plaintif des riches qui se disent mal vus en France. Si les riches se croient victimisés, dit-il, c'est qu'ils sont incroyablement ignorants de ce qui se passe dans le reste du monde. Et cette conclusion, l'époque dans laquelle nous vivons est un marais moral plat et peu inspirant. L'argent y est devenu par défaut un idéal trivial et la seule valeur de référence mondialisée. Après ça, on lit l'Express et alors là, on tombe de sa chaise. Oui, parce que ce qui est mis en avant dans l'interview, parce qu'il y a les bonnes feuilles du livre, pardon, et une interview de l'auteur, donc, et ce qui est mis en avant, c'est l'idée que la richesse des riches profite aux pauvres et que dans ce monde merveilleux, les riches sont surveillés par l'opinion, ce qui limiterait les excès. Mais surtout, on a la une. Les dernières folies des riches. Et des pages entières de descriptions, des petites folies en vogue, alors Noël en Laponie pour les enfants, plongée avec les requins blancs, ou comment faire rêver le lecteur sur ce monde inaccessible mais tellement désirable et comment trahir totalement le discours de Servan-Schreiber.
Allez, on va se prendre une petite confiserie pour se changer les idées. Vous nous parlez de Kraft Food,
oui,
entreprise
Kraft
mondialisée.
Food,
si
vous ne connaissez pas, mais si les riches ont gagné, eh bien c'est parce qu'ils ont suivi une stratégie que le site Rajmag nous décrit minutieusement dans un article consacré donc aux friandises que vos enfants vous réclament au supermarché. Et ça, ça vient de Kraft Foods. Comment vos princes de l'U paient les retraites américaines, fonds de pension, délocalisation, utilisation de travailleurs précaires, illusion du choix pour des consommateurs qui ignorent la concentration du marché, le monde six philanthropiques des grandes entreprises appliquées à l'U, Milka, Cadbury, etc. Et cette conclusion de Rajmag, quand vous achetez, vous plébiscitez.
Allez, la pub, ça suffit, il y en a marre.
Et oui, et Libération nous signale qu'un petit village, lui, a décidé de résister. La Vérune dans l'Hérault, 1800 âmes, mais rattachée à l'agglomération de Montpellier et qui, du coup, devait se voir imposer des panneaux publicitaires de 8 mètres carrés. eh bien le maire vient de prendre un arrêté contre la pollution visuelle. Alors merci de la part de tous les futurs visiteurs de la Vérune.
On termine avec une étude médicale
oui,
et
originale. Oui, le supplément Science et Médecine du Monde nous apprend que le très sérieux British Medical Journal propose tous les ans une étude farfelue pour Noël. Eh bien cette année, des scientifiques ont étudié la vitesse de consommation d'une boîte de chocolat en milieu hospitalier. Avec un protocole très strict pour établir quelle catégorie de personnel pioche plus facilement, dans quel service on se goinfre le plus vite, et des médecins chargés de vérifier tout ça. Les auteurs, précise Pierre Barthélémy, présentent d'ailleurs leurs excuses pour les bobards qu'ils ont dû raconter à ceux qui leur demandaient ce qu'ils pouvaient fabriquer derrière les plantes vertes de la salle d'attente. Conclusion, et ben les aides-soignants et les infirmières sont les premiers prédateurs du chocolat et sa durée de vie est 51 minutes. Alors moi, je vais essayer à Europe 1, ouais. Mais promis, j'éviterai les marques citées ci-dessus et mondialisées.
La boîte de chocolat dans le studio de la matinale d'Europe 1, elle fait 5 minutes
oui,
entre Julie,
on a
vous,
déjà
moi,
testé,
Cabrol.
En fait.
Moins de 5 minutes le chocolat. Merci Natacha Polony.
Merci.